Kiosque Magazine.
Vendredi 19 septembre 2014, bonjour à tous, bienvenue à Kiosque Magazine. Charles Roy au micro, en compagnie de Jessica Raveclé. Bonjour Jessica.
Bon matin Charles.
Alors Kiosque Magazine, c'est un magazine sur les actualités culturelles et les sorties qu'on vous propose au Québec. Alors Jessica, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Alors, on a un agenda chargé, en fait. On parle de sorties de disques, de cinéma. On va parler de danse avec Léon Séléna. On va parler d'humour avec le prochain show de Mado. Mm-hmm. Et également un nouveau sport, du vélo volant.
Du vélo volant. Oh, j'ai hâte de voir ça avec des ailes, là, comme Léonard de Vinci inventait. Là.
Pas tout à fait, mais on va trouver quelque chose qui va te convenir.
Ah, OK. J'ai hâte d'entendre. Il sera aussi question du spectacle de premier acte Dans les bois de David Mamet à Québec. Aussi, une exposition par Gabriel Dagenais, Gabriel Desmarais, à Montréal. Je vous parle aussi de certaines sorties de disques, moi aussi, et du film The Drop. On connaît déjà bien son parcours, il y a eu les triplettes de Belleville, puis elle s'est installée aux côtés de champions quelques temps avant de casser la baraque avec sa voix puissante au sein du groupe Electro Beast. Il s'agit de la chanteuse Betty Bonifaci qui a sorti son premier album solo. C'est Valérie Thérien dans Le Voir qui nous en parle, ça a été écrit le 16 septembre dernier. En écoute, le premier album solo de Betty Bonifaci. Cette chanteuse s'apprête maintenant à dévoiler un premier album solo éponyme, fruit d'un projet fascinant. Suite à son concert « Chant d'esclaves, chant d'espoir » donné dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal en juillet dernier, la chanteuse offre sur un disque une lecture de chants créés par des travailleurs afro-américains dans les années 1920 afin de soutenir la cadence de travail qui était insoutenable et inhumaine. C'est un album et un hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique à des fins de main-d'œuvre, dit Betty Bonifaci. L'Afrique a construit l'Amérique dans sa structure comme dans son art au prix de son sang. Grâce à M. Alan Lomax, ethnomusicologue, nous avons pu entendre ces chants 100 ans plus tard afin de jamais les oublier. L'album de Betty Bonifaci sera disponible le 23 septembre prochain, donc c'est très bientôt, on surveille ça. Le lancement montréalais aura lieu le 22 septembre au Cabaret du Mile End. L'album est présentement en pré-vente sur le web si vous avez accès. On écoute Louis-Jean Cormier. On vient d'entendre « Jaillit les Happy Ends », une nouveauté de Louis-Jean Cormier.
Oui, alors on poursuit avec les sorties disques de la semaine. Je crois que je vais réussir à faire baisser ton budget CD.
Oh, OK.
Oui, alors c'est Charles d'Amboise dans La Presse le 16 septembre qui nous fait ses sorties disques de la semaine. Alors tout d'abord, Adam Cohen, « We Go Home ». Une semaine avant que son célèbre père lance l'album de ses 80 ans, Adam Cohen met la table avec un cinquième opus qui rend hommage à ses racines familiales. Enregistré entre Montréal et l'île grecque d'Hydra, dans le confort des deux maisons où il a grandi, We Go Home dévoile la signature pop dynamique et rassembleuse du chanteur, portée par une guitare acoustique ou un piano. Adam Cohen sera en spectacle jeudi à l'église Saint-Jean de Saint-Évangéliste dans le cadre de Pop Montréal et d'autres spectacles à suivre sur son site web. Mm-hmm. Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge, musique et cinéma.
Oh, Jessica, je t'arrête tout de suite. Ce sera mon prochain article, donc si tu veux pas trop dévoiler
oui,
de surprises.
Je dévoilerai pas de surprises autre que, dans le fond, ils vont revisiter l'histoire du cinéma en y ajoutant une touche symphonique, mais je n'en dirai pas plus pour laisser le suspense à Charles.
Oh, oh.
Alors, on poursuit avec Propofol, Le Banquet. 5 ans après sa fondation, le duo montréalais Propofol voit enfin naître son premier CD, remarqué dans de nombreux festivals, Meg, Oshiaga, Coup de cœur francophone, Francouverte. Jonathan Gagné et Marianne Arsenault balancent un mélange pop-rock électro-rassembleur qui déménage. Lui à la batterie, elle à la voix et à la basse. La paire a collaboré avec Xavier Caféine et les rockeurs de Gasoline, en plus de se faire connaître au Mexique et en Europe. Une quatrième suggestion, Chris Brown avec le CD X. Annoncé depuis plus d'un an et demi, l'album X a été repoussé à plusieurs reprises en raison de nombreux déboires judiciaires du chanteur américain, on le sait tous, très intéressant. Pas moins de 21 titres se retrouvent sur cet album double qui réunit plusieurs gros noms du hip-hop américain quand même, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Nicki Minaj et Akon. Finalement, Charlie-Élie Couture avec Immortel. Exilé à New York depuis 2004, Charlie-Élie Couture renoue avec la chanson française après un silence de 3 ans. L'artiste multidisciplinaire a posé sa palette de couleurs et sa caméra pour laisser sa prose urbaine se faire rhabiller par nul autre que Benjamin Biolay, qui tente de faire renaître le poète rock comme il l'avait fait avec Henri Salvador en 2000. N'ayant rien perdu de sa verve, le rocker propose ici des airs aux tonalités plus pop, susceptibles de toucher un public plus large. Alors, lancez-vous chez votre disquaire ou votre bibliothèque iTunes pour écouter ses suggestions musicales.
Et oui, Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge ont préparé en cachette, parce qu'on n'a pas entendu parler, en tout cas moi j'en avais pas entendu parler, un CD qui regroupe les musiques qu'on entend dans les films, mais pas les musiques populaires. Là. En tout cas, Caroline Rogers dans La Presse nous en parle plus précisément. Ça a été écrit le 14 septembre dernier, « Se faire son cinéma avec Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge » dans La Presse. C'est une histoire de musique et une histoire de film, mais c'est surtout une histoire d'amitié. Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge se sont croisés dans le cadre professionnel pendant des années avant de devenir amis, il y a 5 ans, pendant une tournée de Notre-Dame de Paris en Europe. Ils s'étaient promis de faire un disque ensemble et c'est enfin chose faite avec « Musique et cinéma ». Toutes les chansons ont en commun d'avoir fait partie de la bande originale d'un film, dit Bruno Pelletier. Ce ne sont pas des chansons-titres de films comme Titanic. On a plutôt choisi des pièces et des artistes associés à des films qu'on aime et interprétés ces chansons en leur donnant un nouveau souffle. C'est ainsi qu'on retrouve sur cet album des pièces aussi variées que Le cœur est un oiseau du film québécois Le Party et Calling You de Bagdad Café. Grâce au récent film Gabriel, on a pu inclure Ordinaire de Robert Charlebois. C'est de la musique qui a joué dans les films, mais l'aspect cinématographique des arrangements de Guy devient un peu comme notre petit film à nous, selon l'intention que l'on a donnée à la chanson quand on l'a interprétée. Une pièce comme Shefferville, Le dernier train, qui vient du film Le dernier glacier, est très différente de la version originale de Michel Rivard, qui est plus country. On est allé dans une autre direction, et quand on écoute le texte de Michel avec notre version, c'est toute une autre manière de raconter cette histoire-là. C'est vraiment une récompense quand on nous dit « J'ai été ému, vous avez amené ça ailleurs, ça nous fait découvrir la chanson aux gens ». Ça m'est arrivé il y a des années pour « La manique » de Georges Dor. Ce sont de grandes chansons que l'on continue à faire vivre, confie Bruno Pelletier. Faire résonner les mots. La grande qualité de Guy Saint-Onge est de porter une très grande attention au texte pour créer ses orchestrations, selon Bruno Pelletier. Il part du texte pour reconstruire les choses musicalement, dit le chanteur. C'est comme un tailleur qui fait tout sur mesure. Dans la chanson Shefferville, par exemple, il y a une phrase qui dit « J'ai vu mon père pleurer sur la table de la cuisine », dit Guy Saint-Onge. Cette phrase, pour moi, porte le poids du monde. C'est ce que j'aime de mon métier. Je suis amateur de mots, et quand les gens me disent qu'ils ont redécouvert un texte, je sais que j'ai réussi. J'aime mieux qu'on me dise ça plutôt que de me parler de mes arrangements. La chanson préférée du chanteur? J'ai un gros coup de cœur pour « La complainte à mon frère », qui est peut-être la moins connue de l'album. Elle a une histoire. Elle a été créée par Jean Lapointe et fait partie du film « Les ordres » de Michel Brault, un film marquant pour tout le monde. Sur la pochette du disque, on a des photos d'objets ayant appartenu à Michel Brault qui nous ont été prêtés par son fils. J'aime beaucoup ce qu'on en a fait. Les deux musiciens entreprennent bientôt une tournée de spectacles à travers le Québec avec musique et cinéma. Pour les spectacles, dit M. Pelletier, ce sera piano et voix, dans une formule intime. Mais notre but ultime est d'en faire une version symphonique en spectacle, comme on l'entend sur l'album. Je ne sais pas quand, mais on va le faire. Donc, c'est à surveiller. L'album Musique et cinéma est dans les bacs, si ça vous intéresse.
On poursuit avec le 7e art avec un article de Maude Larchevêque du 11 septembre dans la presse. Le titre « Lulu, femme nue, prendre le large ». La nouvelle de la libération de la femme a été grandement exagérée, semble dire les premières minutes de Lulu, femme nue. Lulu, Karine Villard, est successivement chassée d'une toilette publique, vous êtes chez les hommes, humiliée lors d'un entretien d'embauche, la prochaine fois, faites un effort, la présentation ça compte aussi, et moquée par son mari. Tu as voulu faire ton intéressante? Puis, juste au moment où on croyait avoir affaire à un brûlot féministe, le film détourne son regard de la condition de la femme pour se concentrer sur la condition d'une femme. Cette femme, c'est Lulu. Karine Villard incarne avec toute la fragilité d'un animal blessé le personnage. À la suite de d'une entrevue d'embauche catastrophique, la mère de trois enfants refuse de rentrer à la maison. Elle prend d'abord une chambre dans un hôtel, mais c'est lorsque son mari, qu'on soupçonne violent, déclare ses cartes bancaires volées que sa fuite commence réellement. Sans argent, sans autre bien matériel que les vêtements qu'elle porte, Lulu est totalement vulnérable, mise à nu. Chez un autre cinéaste, les vautours l'auraient immédiatement cernée. Mais la réalisatrice Solveig Anspach a fait le pari de l'optimisme. Ici, la vulnérabilité de Lulu est presque une bénédiction. C'est ce qui la force à aller à la rencontre de l'autre et, par le fait même, à redécouvrir la bonté de l'être humain. Ce genre de parti pris vient souvent avec un lot de clichés, de bons sentiments, dont Lulu, femme nue, est généralement exempt. Cela tient surtout au travail d'actrice remarquable de Karine Villard, mais aussi à l'économie des faits qui traverse tout le film. Le résultat est un film étonnamment sincère, par lequel on se laisse prendre comme Lulu évolue, tout doucement, sans presque s'en rendre compte. La presse y donne 3 étoiles. Lulu, femme nue, c'est une comédie dramatique de Solveig Anspach avec Karine Villard, Bouly Lanners et Claude Jansac, d'une durée d'1h30, présentement dans vos cinémas.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
C'était le charmant Charles Aznavour avec « Je me voyais déjà ».
Philippe Couture, dans le journal Voir, nous parle du film « The Drop ». Il dit que c'est un trailer qui prend son temps. En tout cas, c'est comme ça qu'il titre son article. C'est paru le 16 septembre dernier. Trailer sombre se développant par petites touches, « The Drop » réjouit d'un scénario complexe du maître polar Denis Lehane et d'une réalisation attentionnée de Michael R. Roskam. Quand la pègre de Brooklyn est démasquée par un film méticuleux. C'est un suspense, mais loin d'être un film qui multiplie les pompeux effets de surprise. Chez Denis Lehane, qui a écrit Mystic River, et Michael R. Roskam, qui a réalisé Bullhead, le polar s'appuie sur des atmosphères langoureuses et sur la complexité des personnages qui apparaissent d'abord voilés de mystère, puis qui se démasquent progressivement à mesure que se dévoile une série de crimes dans un Brooklyn enneigé. Le résumé, il s'agit de Bob qui travaille dans un bar a priori sans histoire, propriété de son cousin Marv. Mais derrière le quotidien tranquille de ce barman discret se joue une criminalité souterraine. Le bar sert de lieu de dépôt d'argent sale et la mafia tchétchène et le serveur sera graduellement impliqué dans une histoire pas tout à fait nette. Bob ne semble pas d'accord, ne semble pas d'abord s'en émouvoir. De nature taciturne et placide, il semble imperturbable. Jusqu'à ce qu'il prenne en charge un chien abandonné, lequel s'avère être l'ancien chien d'un caïd local qui ne supporte pas voir Bob s'acoquiner avec son animal de compagnie, mais surtout avec son ancienne copine Nadia. Le calme olympien de Bob va se fissurer doucement, quasi imperceptiblement. Se dévoileront alors quelques fantômes du passé. Plongeant dans une psyché masculine inextricable qui ne se laisse pas apprivoiser facilement, ce film s'appuie sur une photographie attentionnée qui montre un Brooklyn magnifiquement endormi par la neige et le froid. De quoi rendre encore plus souterraines et intrigantes les activités illicites qui grondent dans l'arrière-plan du bar, De même, le surgissement de la violence en est accentué et pourra mener le cinéphile à une réflexion sur la pulsion de cruauté qui nous habite tous et qui sommeille sans éveiller de soupçons. Comme chez David Mamet ou Edward Bond, la banalité des lieux et le naturalisme des dialogues ne sont qu'un leurre, que la façade d'un monde brutal et féroce qui ne demande qu'à se déployer. Un scénario tout en douceur, d'une redoutable intelligence. Ce film s'appelle The Drop et il est présentement en salle.
Alors, on termine notre segment de critique cinéma avec un film qui s'intitule Dolphin Tales 2. En fait, Charles, on aurait dû amener nos flûtes et faire un solo digne de La Grenouille et la Baleine.
Okay.
Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. La critique provient de Catherine Schlager dans la presse le 11 septembre. Dolphin Tales 2, Dauphin pour petits et grands. Donc, vraiment un film qui s'adresse à tout le monde.
Mm-hmm.
Quels sont les films préférés des enfants? Très souvent, ceux mettant en vedette des animaux, qu'ils soient animés ou vivants. Beethoven, Babe, Free Willy, Ice Age, La Grenouille et la Baleine et Belle et Sébastien n'en sont que quelques exemples probants. Et bien sûr, Dolphin Tale, immense succès au box-office, dont la suite n'était pas du tout envisageable, histoire vraie oblige. Mais le destin en a décidé autrement lorsqu'un bébé dauphin en danger fut amené au Clearwater Marine Aquarium de Floride pour y être soigné. Dès lors, un nouvel épisode devenait possible. Ce petit dauphin que les membres du personnel du SMA réussissent à sauver in extremis se nomme Hope. Et il pourrait devenir le compagnon de Winter, héros du premier volet, qui sombre dans la dépression. Les dauphins sont très sensibles. Depuis que Panama, sa mère substitut, est morte. Donc, ça va pas bien. Le deuxième volet du réalisateur Charles Martin Smith va dans la continuité. Tous les acteurs sont de retour et reprennent leurs personnages qui ont bien évolué. Sawyer, Nathan Gamble, fait face à un dilemme. On lui offre d'aller étudier dans un institut de recherche sur les dauphins. S'il accepte, il devra rompre avec Winter, avec qui il a tissé des liens solides. Quant à Hazel, Cozy Useldorf, fille du directeur du SMA, Harry Connick Jr., qui est surprenant, elle cherche de plus en plus à s'affranchir de son père et à prouver de quoi elle est capable. L'aspect le plus intéressant de Dolphin Tale 2, c'est que ce récit s'inspire de faits vécus, et cela se sent dans les très jolies images sous-marines filmées en 2D à la manière d'un documentaire animalier. Cela se sent aussi dans le jeu des comédiens qui interagissent comme de vrais spécialistes avec les bêtes. La complicité des jeunes Sawyer et Hazel avec Winter est d'ailleurs fort belle à voir. Petit bémol, on aurait aimé voir davantage Morgan Freeman, qui n'a qu'un rôle épisodique, ce qui est rare pour lui.
Oui.
Tantôt comique, Rufus, le coquin pélican qui pourchasse la pauvre tortue Mavis, tantôt tendre, Dolphin Tale 2 n'est jamais ennuyeux, même s'il se révèle truffé de bons sentiments et martèle son message sans grande subtilité. Les enfants vont quand même adorer. Alors, la presse donne 3 étoiles. C'est présentement dans toutes les salles de cinéma.
Les 18e journées de la culture sont majeures et vaccinées. Beau temps, mauvais temps, plus de 750 activités culturelles et artistiques auront lieu du 26 au 28 septembre, donc la semaine prochaine, dans la région de Montréal et partout au Québec. Ce sera en tout plus de 3000 ateliers, démonstrations, parcours et prestations qui seront offerts durant les 3 jours où le monde culturel reçoit la grande visite des Québécois. Cette année, entre autres, l'Hôtel de Ville de Montréal se transformera en salle de cinéma, eh oui, et l'usine C redeviendra une fabrique de confiture. Les ambassadeurs des Journées de la culture sont les comédiens Normand Chouinard, Janine Suteau et Debbie Lynch White, le journaliste culturel Claude Deschaines et l'humoriste Rabhi Ramal, mais on vous en parle dans la prochaine édition de Kiosque Magazine. Ce sera sujet
à suivre.
Ce sera à suivre, oui.
On poursuit au théâtre avec Being at Home with Claude. With Claude, mon Dieu, with Claude. Je suis anglaise ce matin. Si on avait eu des doutes quant au talent d'acteur de Benoît McGuinness, Being at Home with Claude au TNM jusqu'au 11 octobre aurait suffi à les effacer. Face à un solide Marc Bellan, McGuinness touche droit au cœur dans le rôle de se prostituer se livrant à la police après avoir assassiné son amant et livre l'extraordinaire texte de René-Daniel Dubois avec un aplomb, une fragilité et une émotion à couper le souffle. Pour le duel d'acteurs mémorable avec Bellan et pour le monologue de la fin joué de façon magistrale, on se souviendra longtemps de cette performance hors du commun, c'est à voir dès maintenant au TNM.
L'OSM est en tournée samedi, donc demain à 20h, à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs de Verdun. Ce sera un spectacle, un concert plutôt, éclairé aux chandelles, avec Alejandra Cifuentes Diaz et Tatiana Dvorani Azkaya, dans des pièces pour piano à deux et quatre mains de Bach, Scarlatti, Couperin, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt et Brahms. Et en terminant, est-ce que tu as le temps de nous... on a 30 secondes, oui. Je vous propose Orgue Dimanche. Deux orguistes locaux sont en concert dimanche. Nicolas-Alexandre Marcotte et Marc-André Doran. Donc, ce sera à 15h à l'église Saint-Pierre des Apôtres et à l'oratoire Saint-Joseph à 15h30. On est de retour dans quelques instants après la pause.